Bonjour, vous êtes bien en direct sur Radio Dio avec l'émission mensuelle du Grémos, donc le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Donc aujourd'hui, on va poursuivre sur la journée d'études du 29 novembre organisée par le Grémos, donc avec rediffusion des interventions et commentaires sur ces interventions, donc dans la poursuite de la continuité des émissions précédentes. Et aujourd'hui, donc, nous avons pour commenter les émissions avec nous Jean-Michel Stenner du Grémos. Donc, je te laisse la parole, Jean-Michel.
Bonjour à tous. Merci à Radio Dio, à double titre d'abord, pour nous accueillir dans ces studios et ensuite pour avoir réalisé les enregistrements qui nous permettent de faire une retranscription au profit des auditeurs de cette journée du 29 novembre 2013. Où nous avions à plusieurs traité du thème « Penser et agir face à la crise dans les années 1968 » en nous focalisant plus particulièrement sur les luttes ouvrières dans le bassin stéphanois 1963-1984. Alors, si le Grémos s'intéresse particulièrement à la mémoire et à l'histoire du mouvement ouvrier et du mouvement social, il n'en demeure pas moins qu'il s'intéresse toujours et aussi à l'actualité. Donc, je voudrais d'abord, en préalable, citer plusieurs annonces. D'abord, demain, vendredi 21 février, au Méliès, une soirée débat organisée à partir de 20h pour la sortie en avant-première du film de Jean-Pierre Duret, « Se battre », Jean-Pierre Duret et André Santana. La soirée est organisée par Radio Dio et c'est notre ami Lionel Fayol, l'animateur bien connu de Radio, qui sera en charge d'animer cette soirée. Alors le thème tourne autour de la solidarité. Qu'est-ce que c'est que se battre aujourd'hui au quotidien par rapport au problème du chômage, par rapport au problème du logement? Et donc ce thème de ce mot, ce grand mot de solidarité qui figure sur les frontons de notre bourse du travail. Qu'est-ce que la solidarité aujourd'hui dans le monde mondialisé que nous connaissons? Deuxième actualité sociale à propos de ce qui se passe en ce moment dans le lycée Jean Monnet, ex-lycée du Portail Rouge, le grand lycée des quartiers sud-est de Saint-Étienne, où les mesures budgétaires sont en train d'entraîner une sérieuse réduction de ce qu'on appelle la dotation horaire globale. Et c'est encore une fois la logique comptable qui est à l'œuvre. Les collègues donc sont aujourd'hui en grève totale avec une manifestation qu'ils organisent devant le rectorat ce soir à partir de 18h. Donc je crois qu'il est important de leur apporter notre soutien et que toute la population du quartier soit au courant et participe à cette solidarité encore une fois. Troisième point, c'est dans le cadre de l'année Jaurès, deux choses que je voudrais dire. D'abord que l'exposition qui est organisée par l'association Jaurès dans la Loire est toujours visible dans la salle Sacco et Vanzetti les après-midi, donc aujourd'hui et demain, de 15h à 19h, et elle le sera encore samedi matin de 9h à 12h. La suite de cette année Jaurès sera concrétisée par d'autres conférences, par des soirées théâtrales. Et alors, parmi les conférences, donc le 4 mars, c'est très bientôt, c'est dans moins de deux semaines, à 19h, à l'Amicale laïque d'Unieux, j'aurai le plaisir de traiter du thème « Jaurès et les ouvriers de la Loire », à partir de 19h. Voilà pour les annonces. Alors, je rappelle que notre journée, donc du 29 novembre 2013, portait sur... Je rappelle, penser et agir face à la crise dans les années 68. Et nous avons entrepris de diffuser des interventions par morceaux depuis que cette journée s'est tenue. Alors aujourd'hui, deux interventions vont nous focaliser. Deux interventions qui sont celles de Pierre Gallon, sur l'UDCGT face à la crise du bassin stéphanois. Et la deuxième, celle de Daniel Durand, sur la Fédération de la Loire du PCF, face à la crise du bassin stéphanois 1963-1985. Alors pourquoi nous avons réuni dans cette même journée, dans cette même émission, CGT et PCF? Bien sûr, je pense que beaucoup de gens comprendront notre intention. Les deux organisations sont les organisations majeures du mouvement social et particulièrement présentes dans la région stéphanoise à l'époque qui nous intéresse. Et d'autre part, notre thème de la journée, qui était celui de, en rapport avec le fameux livre de Xavier Vignat sur l'insubordination ouvrière, la question qui se pose donc à travers l'étude de l'action de ces deux institutions, de ces deux organisations, c'est de savoir si l'insubordination ouvrière s'est dressée plus particulièrement contre elle et pas seulement contre le pouvoir gaulliste et le pouvoir patronal. On sait en effet que mai 68 a connu une dimension certains appelaient anti-stalinienne, anti-totalitaire, et que pendant un certain temps, le PCF, peut-être moins la CGT, mais le PCF ont été en but à de sérieuses critiques. Alors je rappelle que les formes de l'insubordination ouvrière, à savoir l'appel à la grève générale illimitée, la grève avec occupation, l'instauration de comités de grève élus, le recours à une démocratie par l'intermédiaire des assemblées générales, le fait de ne pas exclure la violence et l'illégalité, l'appel aussi à de nouvelles couches sociales, comme les femmes ou les immigrés, la jeunesse, sont des particularités qui ont pu mettre en porte-à-faux la CGT et le PCF qui s'appuyaient, et on verra que Daniel Durand y fait référence à plusieurs reprises, s'appuyaient sur ce qu'on peut appeler les bastions ouvriers, c'est-à-dire les secteurs particulièrement solides comme la métallurgie, les mines, les ouvriers à statut. Est-ce que l'insubordination ouvrière n'a pas d'une certaine façon visé aussi ces ouvriers qu'on pourrait qualifier entre guillemets de privilégiés? D'où trois questions qui vont nous conduire à travers ces deux interventions. Ces formes de l'insubordination ouvrière ont-elles existé dans la région? Ont-elles été freinées par les organisations en question, CGT et PCF, ou ont-elles, au contraire, été reprises par celles-ci? Donc on va voir dans un premier temps ce qu'en pense Pierre Gallon, UDCGT face à la crise du bassin stéphanois.
J'ai travaillé en 1955 à la CFL et j'ai arrêté de travailler, on va dire, avec des guillemets, en 87. C'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler officiellement à 50 ans et 6 mois. J'ai fait autre chose après, hein, ne vous inquiétez pas. En 63, donc sur cette période, c'est la fin de la guerre d'Algérie et en même temps c'est la grève des mineurs. La CGT s'est bagarrée depuis 54 contre la guerre d'Algérie. J'ai dit CGT, j'étais à la CFTC à l'époque, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et dans les années 62-63, on a été amené, y compris, à monter des milices pour surveiller les boîtes comme Creuse-Loire, comme la CFL, où on avait peur des interventions de l'OAS, etc. Donc c'est une période relativement sévère. Moi, je me baladais armé à la CFL à cette époque. La grève des mineurs, la CGT a beaucoup soutenu, bien sûr, la grève des mineurs, c'est évident. Mais je me rappelle surtout de la solidarité financière qu'il y a eu à cette époque, parce qu'on avait réussi pratiquement à payer les salaires des mecs qui étaient en grève. Et la solidarité s'était organisée, y compris dans les quartiers, avec l'organisation pour les familles, pour les gamins, de manger dans les cantines scolaires, etc. Voilà. Donc c'est une période qui est importante, et c'est un bon démarrage. On est dans une période de développement économique et industriel dans la Loire, qui monte en emploi et en population jusqu'en 75. La CFL, créée en 53, va se développer tout en structurant, si vous voulez, sur deux aspects, la sidérurgie d'un côté et la mécanique lourde de l'autre, hein. Avec une dimension nationale et internationale. Sur l'automobile, bien sûr, le naval, les chemins de fer, sur le nucléaire, déjà, sur l'équipement lourd, d'une façon globale, hein. Et puis, je le précise toujours, parce que c'est important, c'est toujours des commandes d'État, soit des États français, soit des États ailleurs. Hein. Alors, j'ai beaucoup entendu la montée des luttes de 63 à 68, j'ai récupéré, moi, toutes les luttes qui ont effectivement été dans cette période-là, mois par mois, jour par jour. Et effectivement, on se rend bien compte qu'il y a une montée en 64. Déjà, c'est le début de la grève de la SFAC, hein, qui a été citée tout à l'heure, où, bien sûr, Maurice Thombe joue un rôle important. Mais il n'y a pas que Maurice Thombe, mais c'est quand même, ça marque la population stéphanoise d'une façon globale, parce que c'est le plus gros, ça va être le plus gros licenciement collectif jamais envisagé j'allais dire presque nationalement, dans la métallurgie. On ne va pas être loin de 700 licenciés à la SFAC, et qui sont essentiellement, et je tiens à le souligner, dans la partie productive. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr quelques techniciens et administratifs qui sautent, mais le plus gros, c'est les emplois de production. C'est important de souligner aussi. Alors, la lutte ouvrière va continuer à monter, comme ça a été dit déjà, jusqu'en 68. C'est difficile. Je le dis gentiment, mais il n'y avait pas un mois sans une retenue sur les salaires. Et c'est vrai que ça marque, parce que, effectivement, c'est les choses qui marquent très, très, très concrètement. Alors, c'est les mines, c'est la métallurgie, c'est le textile, c'est l'agroalimentaire. Et puis, il y a, mais y compris, on n'oublie pas, j'allais dire, nos responsabilités, j'allais dire, globales, et en particulier avec la paix au Vietnam, en fin 68. Les grèves se multiplient en 68, bien sûr, mais je ne vais pas m'approfondir trop sur 68. Les grèves se multiplient en 68, Denis Firmini, les Ben Marel, les PTT, les chapeaux à Chazelle, Hotzer Outillage, à CFL. Je cite comme ça, Cécile à Montbrison, Marel à Rive-de-Gier, les RCT à Rouen. Oui, oui, c'est bon. Le déclenchement des grèves en 68, c'est assez amusant aussi, ça fait toujours partie de la petite histoire. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre de grève pour le début des grèves en 68. Et ça ne veut pas dire qu'elle était spontanée. Et si j'ai dit qu'effectivement les luttes avaient continué à monter, c'est bien la preuve qu'il y avait effectivement un mécontentement profond devant, ce que je rappelle, un développement économique important, donc des résultats importants. Donc les revendications portaient sur les salaires, sur le temps de travail, sur les retraites déjà, bien sûr. Et voilà, c'était du concret, concret. La reconnaissance, alors ça va se traduire donc pour en 68, la reprise du travail du 13 au 17 juin, qui a été dure à faire, la reprise du travail. Hein, j'étais un de ceux, comme par hasard, qui était contre la reprise, hein, parce que ça avait donné un élan et une réflexion politique telle qu'on attendait autre chose que les aspects 30% d'augmentation des salaires. Où il y a eu des choses aussi importantes, comme la reconnaissance de l'organisation syndicale à l'entreprise, qui est une chose importante. Et puis, c'est à partir de là qu'il y a des administrateurs élus dans les grosses boîtes. Je vais finir, moi, comme administrateur de la CFAS, la Compagnie française des essais spéciaux, avec mon camarade Forgeard, bien connu. Vous avez retrouvé à RDS il n'y a pas longtemps, voilà. C'est un petit peu de l'anecdote. Je voudrais arriver sur un point qui me paraît important, c'est le financement de l'industrie. Je pense que c'est important à signaler parce que ce financement de l'industrie, il est très caractéristique sur la Loire. On avait l'habitude d'une industrie, je parle surtout de la métallurgie, hein, bien sûr, où c'était des patrons qui étaient des techniciens. Alors je vous cite, hein, Oetzer, Jackson, Barouin, Marel, Schneider. C'est des mecs qui sont des métallurgistes, qui connaissent leur métier, qui sortent de l'école des mines, pour la plupart. Et on est dans... Les finances sont à part. Et pour l'anecdote, encore une fois, vers les années 66 à peu près, notre patron chez Barouin, qui s'appelait Laravoir, qui est un homme bien connu sur Saint-Étienne, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui nous annonce en CE qu'il est remplacé. Alors il nous dit, écoutez, je m'excuse, mais... Je ne peux pas en dire plus ici, mais si ça vous intéresse, vous venez dans mon bureau, je vous expliquerai. On a été dans son bureau, Et là, il nous a dit tout de suite, bah, écoutez, je vous avertis, ceux qui m'emplacent, c'est les bandits. C'est les bandits. Alors, on n'a pas compris tout de suite ce qu'il voulait dire, bien sûr. Et puis, on a mis un moment, on a mis quelques années à comprendre ce qu'il avait voulu nous dire, c'est qu'effectivement, ceux qui remplaçaient, ce n'étaient plus des techniciens, c'était des financiers, point. Et là, on voit très nettement la différence, on va voir très vite la différence, étant donné que jamais on va pouvoir reparler des problèmes, justement, industriels, sur lesquels nous, on avait toujours des propositions. On va continuer à faire des propositions de développement de la sidérurgie, par exemple, pour le marais, on va intervenir pour avoir la coulée continue, par exemple, au dernier moment, y compris Chirac, qui va nous promettre la coulée continue, d'ailleurs. Ça aussi, ça fait la partie de la petite histoire, mais ça veut dire que la financiarisation devient importante et elle va conduire à une nouvelle organisation du travail, hein, avec un recentrage sur le métier, vous rappelez, qui allait conduire... Alors, c'est assez amusant parce que il faut le. Je m'excuse d'être un peu précis là-dessus. On a mis en place la comptabilité analytique à ce moment-là, dans ces années-là. Et c'est vrai que cette nouvelle chose était une très bonne chose parce que ça permettait de disséquer les opérations, de voir celles qui rapportaient, celles qui étaient rentables et celles qui n'étaient pas. Sauf que ça permettait aussi autre chose, c'est d'isoler des morceaux et de les externaliser, et c'est là qu'on a commencé à voir apparaître l'externalisation dans les grosses entreprises. On a commencé par externaliser les services, je me rappelle les premières grèves qu'on a faites, c'était pour défendre les femmes de ménage. Bon, mais les femmes de ménage, c'était un service qui était dans la boîte, qui a été externalisé. Après, ça a été l'entretien des fours qui partait à l'extérieur, et puis petit à petit, c'était des morceaux de production. Et on voyait arriver dans la boîte des mecs qui étaient chargés de buriner les lingots, de faire de la préparation, si vous voulez. Donc, petit à petit, on externalisait. Et ça, ça va avoir une importance tellement grande que cette méthode de travail va être appliquée, bien sûr, dans l'industrie, au départ. Elle va conduire à l'externalisation, à la disparition des grosses boîtes, hein, puisqu'on va passer à une période où on était à une vingtaine de boîtes de plus de 1000 dans la région stéphanoise. On passe à zéro, bien sûr, aujourd'hui, mais on est passé en 84, on devait être de trois boîtes à peu près de plus de 1000. Hein. Aujourd'hui, les boîtes de 500 dans la Loire, dans la métallurgie, c'est à remarquer, quoi. Il doit y avoir les aciéries de Fort, par exemple, et puis Marais la rive de Gier qui doit être frôlé. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment pas du même niveau. Donc ça va s'appliquer dans l'industrie, et puis petit à petit ça va s'appliquer aussi dans le secteur public parce qu'ils vont bien se réaliser, tout le monde va bien comprendre que c'est intéressant. Et aujourd'hui, je me rappelle à un stage CGT avec la santé, où les infirmières me disaient, mais non, nous ça peut pas nous arriver, et puis en fait dans l'hôpital, dans la santé, c'est bien si c'est appliqué aujourd'hui avec un recentrage sur le métier qui est la salle d'opération, et puis tous les services qui sont le plus possible externalisés. Voilà. En 70, on est donc dans une période de continuité. On continue à centraliser la production. Hein. La création de Creusot-Loire, qui rassemble, c'est important, hein, on continue à rassembler le capital et la production. Le Creusot-Loire qui va rassembler la sidérurgie fine, la mécanique lourde, et je plaisante un petit peu, mais c'est vraiment un espoir, parce que quand la mécanique est en panne à cause du dollar, c'est la sidérurgie qui profite, et inversement, quand le dollar baisse, et ben c'est voilà. Donc c'est un espoir du point de vue, j'allais dire, équilibre, et on peut se demander pourquoi ça n'a pas tenu. Donc on est concerné par, je reprends, hein, les pièces pour l'automobile, le nucléaire et l'EDF, y compris l'EDF hydraulique, bien sûr. L'exploitation pétrolière, les chemins de fer, réseaux et machines, les constructions d'usines, bien sûr, métallurgiques, chimiques, agroalimentaires. On est capable de tout faire, quoi. Je plaisante, y compris un truc pour aller sous les mers. Mais ça, c'est une plaisanterie. Le financement de l'industrie va se traduire en particulier par un détachement total de l'entreprise avec les besoins sociaux. Alors ça, ça me paraît important aussi à dire, parce que, si vous voulez, ce qu'on a critiqué dans le paternalisme, effectivement, de l'époque, on pourrait presque dire que c'est un bien, ça serait presque un bien aujourd'hui. Parce que quand on prend Barouin ou Schneider, Creusot, c'est encore plus significatif, Schneider s'occupait de tout, quoi, de l'école, y compris de l'église, hein, comme chez Barouin d'ailleurs. La première église au Marais, qui est à la place de la Capeb, c'est quand même Barouin qui finance. Quoi. Donc voilà, l'entreprise a un rôle, ce soin, sur le logement, etc., bien sûr. Ce rôle politique, je dis bien ce rôle politique, il va être repris par les organisations syndicales à travers les gros comités d'établissement. Et pendant, j'allais dire, un certain nombre d'années, c'est vrai que c'est très court, pendant un certain nombre d'années, la CGT, je parle de la CGT, va jouer un rôle important dans le logement, dans la culture, dans le sport, dans l'éducation professionnelle, bien sûr, dans la formation professionnelle, dans l'économie, parce qu'on va se mêler aussi l'économie, comité d'expansion, par exemple, qui est créé à peu près dans cette époque-là. On suit les problèmes avec la création d'ELO, au hasard, de cibles, au hasard, CIBC aujourd'hui. C'est à peu près cette époque, il y a 25 ans, puis on a fêté. Voilà. Donc, on va avoir un rôle politique comme ça. La fin de la montée, alors, je dis bien la fin de la montée industrielle de la Loire, va se passer entre 78 et 74. Je raccourcis, effectivement, mais avec, point par point, on va continuer à monter et à grossir sur tous les plans et sur tous les morceaux de la construction mécanique. Après 75, effectivement, c'est là qu'à partir de ce moment-là, que vont éclater tous les conflits avec une dominante très, 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 très défensive. Alors, je les cite très rapidement. Bien sûr, on connaît plus Manu France, mais il faut rappeler Peugeot. Il faut rappeler, moi j'avais mis CTA, mais c'est J.B. Martin qu'il faut dire. Prozine, Saint-Chamond, au hasard. Les RCT à Rouen. Effectivement, la CGT va entourer ces luttes d'une façon importante. On va être présent partout, mais on va se retrouver, quelqu'un l'a dit déjà, devant une volonté, ou du moins une absence de volonté politique, qui fait que les décisions économiques vont continuer à se prendre en dehors des de toute responsabilité politique, aussi bien au niveau local, départemental, régional que national. Voilà, c'est là où je pense que ça pose question. En 68, on a manqué de relais politique, c'est vrai. Aujourd'hui, je repose la même question. On a peut-être bien une activité encore politique de proposition. Je ne parle pas des propositions qu'on a faites, 21 propositions en 84, qu'on a redéposées en préfecture en 89, j'y ai participé pas mal, et qui étaient des propositions strictement industrielles. Il n'y a pas de réponse des pouvoirs parce qu'ils sont dans l'incapacité de répondre. C'est uniquement le pouvoir économique qui prend la décision. Je pose la question, qui est-ce qui a pris la décision de l'éclatement de Creusot-Loire? J'attends une réponse précise. Et aujourd'hui, qui est-ce qui est capable de prendre une position pour une décision, quelque chose qui pourrait organiser, par exemple, la métallurgie dans le département de la Loire, par exemple? C'est les questions.
Bien, merci.
Bien, vous êtes bien sur Radio Dio dans l'émission du Grémos. Donc, après cette intervention de Pierre Gallon, nous allons faire une petite pause musicale. Donc, avec une chanson donc extraite d'un disque sorti en 1974 qui s'intitule « Pour en finir avec le travail », un recueil de chansons du prolétariat révolutionnaire, comme c'est indiqué. Donc, on s'écoute ça.
Rue Gay-Lussac, les rebelles, donc les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez? Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Dites-moi comment s'appelle ce jeu-là que vous jouiez? La règle en paraît nouvelle, quel jeu singulier. Des canons par centaines, des fusils par milliers. révolution, la belle, est le jeu que vous disiez. Elle se joue dans les ruelles, elle se joue grâce aux pavés.
Les canons passent en belle, les fusils par milliers. Les canons, les fusils passent en belle et par milliers.
Le vieux monde et ses séquelles, nous voulons les balayer. Il s'agit d'être cruel, mort aux flics et aux curés.
Les canons passent en belle, les fusils par milliers.
Ils nous lancent comme grêle, grenades et gaz chlorés. Nous ne trouvons que des pelles, des couteaux pour nous armer.
Des canons passent en belle, des fusils par milliers. Des canons, des fusils passent en belle et par milliers.
Mes pauvres enfants dit-elle, mes jolis barricadiers. Mon cœur en chancelle, je n'ai rien à vous donner.
Des canons passent en belle, des fusils par milliers.
J'ai foi dans ma querelle, je ne crains pas les policiers. Il faut qu'elle devienne celle des camarades ouvriers.
Des canons passent en belle, des fusils par milliers. Des canons, des fusils passent en belle et par milliers.
Le gaullisme est un bordel, personne n'en peut plus douter. Les bureaucrates aux poubelles, sans eux on aurait gagné.
Des canons passent en belle, des fusils par milliers.
Gay-Lussac, les rebelles, donc les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez?
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Des canons par centaines.
Voilà, donc c'était la chanson du CMDO, Comité pour le maintien des occupations, donc dans ce recueil de chansons entre guillemets du prolétariat révolutionnaire, donc une petite intervention situationniste, donc puisque l'auteur de cette chanson c'est Alice Baker Howe qui a épousé Guy Debord. Donc c'était au départ une chanson du siège de La Rochelle, écrite par Louis Aragon et composée par Jacques Douet. Donc c'était un détournement de chansons, à succès, comme avaient pu le faire aussi des auteurs proches du mouvement ouvrier, plus au 19e siècle, début du 20e siècle. Voilà, mais après cette petite pause, revenons donc à nos interventions, à la journée d'études du 29 novembre. Et je redonne la parole à Jean-Michel qui va un peu nous commenter l'intervention de Pierre Gallon.
Alors Frédéric, qui est derrière la console, nous a choisi une musique sur un rythme brun, un petit peu militaire, on dira. Mais bon, c'est la musique d'origine. Aujourd'hui, alors la chanson s'intitule « Pour en finir avec le travail », si j'ai bien compris.
C'est le nom de l'album.
C'est le nom de l'album. Aujourd'hui, effectivement,
la chanson, c'est pour maintien des occupations.
Les chômeurs qui en attendent, ils sont plutôt par centaines de milliers, voire par millions. Mmh. Hein, c'est plus des canons, c'est du travail justement qu'on réclame, enfin que les chômeurs réclament. Alors l'intervention de Pierre Gallon, justement, c'est aussi, moi je la trouve extrêmement intéressante. D'abord, c'est un témoin vivant qui nous fait part de son expérience à la fois dans le monde du travail et dans le monde syndical. Et je trouve c'est extrêmement chaleureux la façon dont il évoque ses souvenirs. Et puis moi j'ai retenu de cette intervention d'abord ce qu'il dit à la fin, c'est une vision, je pense, de la Révolution, puisque cette chanson que nous venons d'entendre évoquait la Révolution, sur le rôle politique de l'entreprise, dit-il. Le rôle politique de l'entreprise repris par les comités d'entreprise. Et là je pense que Pierre nous montre qu'il y a toute une thématique qui a été développée notamment après la guerre et qui est reprise par la CGT, par le Parti communiste, sur ces comités d'entreprise. Moi j'ai retenu aussi ce qu'il dit par rapport au passé stéphanois et à cette date de 1963-64 avec le grand coup de tonnerre, le premier grand coup de tonnerre qui va toucher l'industrie stéphanoise, même s'il y en a eu des petits auparavant dans les années 50, c'est-à-dire la fermeture de la SFAC L'usine sidérurgique donc de la rue Barouin, se traduit par, dit-il, le plus gros licenciement collectif, plus de 700, et qui, son témoignage indique bien l'importance de l'événement, à la fois pour l'histoire industrielle stéphanoise et pour l'histoire des mentalités collectives. Finalement, cet événement a peut-être fait encore plus de bruit que 10 ans plus tard, le début du naufrage de Manu France, qui a pourtant touché plus de monde. C'était la traduction d'un véritable tournant dans l'histoire industrielle stéphanoise, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avions choisi cette date de 63-64. Je crois que le troisième point que je voudrais dire, c'est ce qu'il dit sur la reconnaissance de l'activité syndicale. Enfin, on oublie souvent quand même que ça a été un des grands acquis de 1968. Pour la première fois, au sein de l'entreprise, hein, on dit souvent que c'est en 1936, mais en fait, ce n'est pas avant 1968 que les syndicats ont pu mener leur activité au sein de l'entreprise. Et puis, bien sûr, tout ce que Pierre dit à propos de la financiarisation et sur la transformation du travail et de la conception de l'entreprise. Donc, quand il dit, je terminerai par là, à propos des propositions qu'il fait, le rôle des comités d'entreprise, le rôle de l'aspiration à une certaine démocratie à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, je crois qu'il faut rappeler qu'ici que Pierre se fait finalement le porte-parole d'une vieille revendication du mouvement ouvrier dont on trouve trace dès le milieu du 19e siècle, et une revendication de participation. De Gaulle a pris cette expression, elle a été quelquefois critiquée, vertement critiquée, mais d'une participation des salariés à la marche de l'entreprise, qui a régulièrement été rejetée avec dédain par le patronat. Et finalement, on voit bien que cette revendication, eh bien, la CGT des années 60-70, la porte encore, et qu'elle en fait un des modes de son action, notamment quand elle y parle de la CGT qui entoure les luttes. Alors on reste un petit peu sur sa fin, puisque bon, Pierre n'a pas eu le temps, il n'a pas évoqué les liens entre la CGT et le PCF. Donc on va voir avec Daniel Durand si il a des choses à nous dire à ce sujet.
De la loi du PCF, face à la crise du bassin stéphanois.
Bien, pour être donc précis, comme je fais partie des ovnis de la journée, des objets pas trop bien identifiés, brièvement, dans ma vie d'adulte, j'ai eu 4 vies, en fait. J'ai une première vie professionnelle comme instituteur, jusqu'en 1976. J'ai une vie d'une quinzaine d'années, de 70 à 85, comme militant communiste. Et à ce titre, pendant 5 ans, j'ai été membre du secrétariat de la fédération du PCF. J'ai eu une vie ensuite, on va dire, pendant une quinzaine d'années, de militant du mouvement de la paix. À ce titre, pendant 8 ans, j'ai été premier secrétaire national du mouvement de la paix. Et ma 4e vie, à partir de 2002, j'ai eu la chance de pouvoir entrer à l'université à Grenoble pour après validation de mes acquis personnels. Donc j'ai passé un DEA de relations internationales et défense. J'ai commencé une thèse sur la France et le désarmement, mais je n'ai pas eu le courage de Jean-Paul Wendtger et d'autres. Donc je me suis un peu assis sur ma thèse au bout de 3 ans. Elle m'a permis quand même de publier quelques ouvrages sur les questions internationales, de continuer d'animer un blog de relations internationales. Et donc, dans mes loisirs, j'ai contribué à la création du CEDMO 42, à l'histoire donc, de cette partie du mouvement ouvrier dans la Loire. Pour moi, en choisissant évidemment ces deux dates symboliques, 63-83, lorsque je réfléchis sur ce qui a été l'action de la Fédération du Parti communiste pendant cette période, à mon avis, il me semble qu'elle a été marquée par 2 défis majeurs. Et 2 autres, disons, de second rang. Ces 2 défis majeurs, c'est le premier, c'est comment agir pour conserver à la Loire son caractère industriel et historique, le triptyque charbon, acier et textile, ce qui était une évidence pour les militants communistes de cette période, qui majoritairement étaient issus de ce milieu ouvrier et dont la culture marxiste valorisait la production industrielle. Et la 2e question essentielle, c'était aussi, je pense, dans ces années 60, comment sortir de l'isolement politique lié à la guerre froide, aggravé par la prégnance de la domination gaulliste, et en même temps conservé dans ce cadre aussi l'hégémonie à gauche par rapport à la SFIO. Les deux enjeux de deuxième rang, je dirais, qui se sont posés très localement, c'est à la fin des années 60, comment gérer au mieux le renouvellement des dirigeants politiques, du personnel politique qui est issu de la Deuxième Guerre mondiale, de la résistance, que l'on parle de Théo Vialmassa, que l'on parle de Michel Audagnier, que l'on parle de Joseph Stengels. Comment donc gérer ce renouvellement? Et à partir des années 70, c'est comment faire face d'un point de vue, disons, de structuration, d'implantation, comment faire face à l'écroulement progressif des différents bastions industriels dans lesquels le Parti communiste était majoritairement implanté dans le département et qui subissent de plein fouet des restructurations industrielles. Voilà. Dans ce cadre, j'ai posé trois périodes chronologiques, 63-71, que j'appellerai la sortie progressive de l'isolement, 71-79, une certaine contre-offensive économie éco-politique des communistes de la Loire, et 79-83, mais en fait 86-87, les désillusions et le retour, en somme, aux réalités, quoi, et l'échec donc des efforts locaux tentés, liés évidemment au contexte national. Alors, dans cette période des années 63-71, j'ai pris trois points. D'abord, le niveau économique. À cette époque, à mon avis, les préoccupations économiques essentielles des communistes dans le département sont centrées, évidemment, sur les menaces qui se développent autour de l'écroulement de l'exploitation minière à la suite du plan Jeanneney de 60. Les communistes essayent, mais avec beaucoup de difficultés, de combattre le fatalisme et l'acceptation de la conversion qui gagne très rapidement du terrain dans la Loire avec les expériences de la fin des années 60, de reconversion sur les zones, la Talonnière, etc. On note que, par exemple, en 66, il essaye de lancer un débat, on a parlé tout à l'heure de cette année 66, je ne me souviens plus quel internat, il essaye de prendre pied sur le débat avec un débat avec Théo Vialmassa, qui est à l'époque député, qui se réaffirme un soutien au maintien de l'exploitation charbonnière et demande la venue d'industries nouvelles. Mais il n'y a pas dans cette période d'action concrète engagée. C'est plus un travail d'information, d'explication sur le plan des idées. Les actions les plus concrètes qu'on peut dégager, c'est à la veille des événements de 68, c'est une conférence débat avec des partis de gauche sur le thème le chômage n'est pas fatal, c'est d'ailleurs les communistes qui président. Et en juin 68, le PCF arrive à publier avec la FGDS un plan d'urgence économique et sociale pour la Loire. Mais en dehors de ces deux faits un peu concrets, dans cette période, on peut dire que l'essentiel de l'intervention des communistes est plus un positionnement de soutien aux revendications syndicales, aux luttes revendicatives générales. La deuxième série de remarques que je ferai dans cette période, c'est une période où donc la fédération du PC, comme au niveau national, mais avec une certaine réussite sur le plan départemental, gagne des points d'appui. Elle gagne des points d'appui. Le premier, évidemment, elle bénéficie des retombées positives de la grève des mineurs de 63, qu'elle a soutenue, qu'elle a accompagnée, donc dans lequel elle a été à l'aise. Et donc, la déclaration du bureau départemental à la fin de la grève des mineurs est très nette. La fédération appelle à contribuer à renforcer l'union de tous les travailleurs dans le succès de cette grève. Oui, peut-être que je n'oublie pas de... J'étais un peu trop. Voilà. Oui. Un autre point d'appui qu'on peut noter dans cette période, c'est évidemment un certain regain de prestige dans un certain nombre de milieux ouvriers liés à la présence très active des communistes sur tout le terrain des luttes anticoloniales, donc la lutte contre la guerre d'Algérie, puis ensuite la lutte contre la guerre du Vietnam, surtout que dans la Loire, il se crée des collectifs d'associations très forts, hein, ce que l'on appelle le carrefour, notamment pour la paix en Algérie, dans lequel les communistes jouent un rôle actif. Là, en même temps, parallèlement donc à cet effort de la fédération, celle-ci va enregistrer des premiers succès électoraux. En 1962, c'est un peu la divine surprise, parce que dans une élection triangulaire, Théo Vialmassa est élu à Firminy, député de Londaine, face à Claudius Petit. Hein. Et en 1965, autre phénomène de triangulaire, à Saint-Étienne, Michel Ollagnier est élu conseiller général face à Michel Durafour. Hein, donc deux éléments, deux gains intéressants. Et en 65, aux mêmes élections municipales, le PC regagne la municipalité de la Ricamarie avec Fernand Montagnon et celle de la Talaudière avec le docteur Jean Platé. Hein. Par contre, 67 va être une année noire pour les communistes dans la Loire, puisque dans les deux cas triangulaires, ils se reproduisent les deux élections, il y a les législatives, il y a les cantonales, et les triangulaires se transforment en duel, et donc le siège de député est perdu par Théo Vialmassa, et le siège de conseiller général est perdu par Michel Ollagnier à Saint-Étienne. Par contre, trois ans après, la tendance lourde reste quand même dans le département, après les événements de 68, plutôt favorable au PC, il y a eu un petit débat là ce matin, je crois, hein, elle reste plutôt favorable au PC, puisque... aux élections cantonales de 1970, le PC dans la Loire gagne deux sièges de conseillers généraux avec Théo Vialmassa et Fernand Montagnon dans l'Ondaine. Et au municipal qui suit de 71, Théo Vialmassa gagne la mairie de Firminy. Donc on peut dire que l'après 68 est plutôt dans le département une période d'engrangement de gains politiques pour le PC, puisqu'il se retrouve avec cinq maires, deux sièges de conseillers généraux. Donc, il a amené, disons, qu'un retour politique qui se situe dans les meilleures eaux depuis la guerre. Le troisième éclairage de cette période, c'est la question de la direction... communiste. Donc, je l'ai dit, Théo Vialmassa est à la tête de la Fédération du PCF depuis 1953, mais en même temps, disons que c'est un homme politique dans le département donc depuis la Libération. Michel Ollagnier est chef de file des communistes stéphanois depuis aussi les années 50, et pendant un an, il est secrétaire de la Fédération de 52 à 53. Hein. Et Joseph Sandol, c'est secrétaire de l'UDCGT depuis 55, depuis l'élection de Marcel Thibault au siège de député. 56 plutôt, depuis l'élection de Marcel Thibault. Donc, ce sont des hommes qui sont encore jeunes, qui ont 50 ans, mais qui sont en responsabilité depuis 20 à 25 ans. Donc, il y a quand même pour certains, il y a des phénomènes d'usure qui peuvent commencer à se manifester. Au niveau national, il est certain qu'à cette époque, il y a un souhait de renouvellement de la direction politique de la Fédération de la Loire, et il y a un effort qui est un effort de direction nationale pour promouvoir un cadre de remplacement en la personne de Serge Gaillard, qui est un jeune ouvrier métallurgiste stéphanois, et qui est aussi, en même temps, apparenté à des vieilles familles communistes stéphanois, puisque c'est un neveu des Ramiers, qui sont donc des dirigeants syndicaux, déportés, etc., donc qui représentent quelque chose d'important dans les représentations à l'échelle locale. Et on peut dire qu'à la veille, en début 71, la direction communiste est en difficulté, parce que Théo Vialmassa va être élu maire donc au municipal de 71, donc il est très peu présent. Le candidat de remplacement qui a assuré son intérim pendant plusieurs années, dans les années 60, ses années de député, Serge Gaillard, est lui, pour des raisons personnelles, hors compétition. Les autres cas de la Fédération de la Loire, intermédiaire à la Fédération de la Loire, il y a eu une rotation relativement rapide, pour des raisons d'ailleurs qui mériteraient d'être travaillées, que je n'ai pas eu le temps de faire, hein, Paul Bernard, Théo Ronco, qui est envoyé comme correspondant de l'Humanité au Vietnam, Salvatore Lombardo, si bien que la Fédération de la Loire du PCF début 71 est dirigée par un ancien dirigeant de la jeunesse communiste, Maurice Tollet, qui assume un intérim, mais dans des conditions très, très compliquées. Donc, à la fin de cette première période, on peut dire que la Fédération de la Loire a réussi une partie donc, de ses objectifs de sortir de l'isolement politique, sur le terrain social, qu'elle a un positionnement qui lui est relativement favorable, mais sans jouer, je pense, un rôle propositionnel très fort. Elle a élargi sa base électorale, mais par contre, sa direction est en difficulté et les chiffres montrent que son implantation organisée stagne. Alors, l'élection de Théo Vialmassa en 71... Donc va accélérer la nécessité de trouver une solution durable pour l'emplacer. Et il y a à ce moment-là des négociations avec la direction nationale du PC et Joseph Sandels, qui est membre, secrétaire du DCGT, mais en même temps membre du comité central du PC, pour dégager un cadre. Et c'est donc un peu c'est le dauphin, celui qui était présenté comme le dauphin de Joseph Sandels à cette époque, en 71, pour l'emplacer, Marc Bruyère, qui va être élu à la direction de la Fédération départementale, alors qu'il est peu connu dans le PC, qu'il est adhérent du PC depuis seulement 2 ans, depuis 1969. Le secrétariat est complètement renouvelé, puisqu'avec Marc Bruyère, arrive un autre militant qui va jouer un rôle évidemment important, c'est Paul Chauma, donc un militant stéphanois, un militant syndical du syndicat des instituteurs, lui aussi vieille famille de communistes stéphanoises, et ces deux hommes vont jouer un rôle donc dans la décennie 70. Marc Bruyère, par ses liens syndicaux très forts, donc cela va renforcer les liens, on peut dans une série d'actions avec avec la direction syndicale de la CGT. Et on va avoir un homme qui est très offensif. Donc les initiatives politiques du PC vont se modifier, y compris en tenant compte du contexte de signature du programme commun, vers des initiatives beaucoup plus propositionnelles, j'allais dire. Et avec Paul Chauma, on va avoir un homme qui va jouer un rôle majeur dans la prise en compte à Saint-Étienne des mutations urbaines, avec les nouveaux quartiers comme Moreno, qui va s'inscrire dans des orientations certes nationales, mais auxquelles il va donner une efficacité certaine, c'est-à-dire la création à cette époque des comités de ville, des organisations locales communistes dans les grandes villes, hein, pour améliorer leurs coordonnées. Et ce qui va permettre donc son élection au Conseil général en 1976. La dernière étape dans la mutation des directions, des dirigeants, aura lieu de fait aux élections municipales de 1977, puisqu'il y aura le changement de tête de file des communistes. Michel Ollagnier donc, ne sera pas la tête de liste des municipales à Saint-Étienne, et ce sera donc Joseph Sandel qui sera le candidat qui sera... une efficacité et un changement d'image de la liste d'union conduite par les communistes aux élections municipales. Et ce qui en même temps va amener la question de la direction syndicale, du changement donc évidemment du remplacement de Joseph Sandels à l'union départementale CGT. Et c'est là ce qui sera le troisième changement seulement depuis la libération, puisque le premier c'est celui de Marcel Thibault avec Joseph Sandels en 56. Donc c'est le troisième changement, et le choix est, je pense, sous une pression forte des militants communistes, c'est le choix de Claude Fournier, qui est le responsable de la fédération du syndicat de la métallurgie CGT, et qui lui aussi fait partie des réseaux communistes, des vieilles familles communistes de Saint-Étienne, puisque par sa femme, il est lui aussi apparenté aux Ramiers, puisque sa femme est une sœur des Ramiers. Voilà. Là, pendant cette période, en essayant d'accélérer, de 70 à 90, le changement de direction départementale, avec le contexte national, va se traduire par des initiatives économico-politiques beaucoup plus marquées. dès 72, avec la publication d'un document, la Loire à la croisée des chemins, qui aborde la question donc, du maintien de l'exploitation charbonnière et du développement de la sidérurgie face aux menaces, avec des contacts qui sont liés, qui sont noués au niveau, disons, de la Fédération des mineurs CGT pour qu'il y ait une relance et une relance de la lutte pour empêcher la fermeture des houillères qui est programmée pour fin 73, pour le 1er janvier 74. Et donc, pendant ces 3-4, les initiatives vont se multiplier sur ce plan, si bien que les houillères vont annoncer le report de la fermeture en 1980. Pendant ces années-là, jusqu'en 77-78, les communes de la Loire vont prendre un certain nombre d'initiatives. J'ai en 76 l'idée d'un centre national de la machine-outil à Saint-Étienne. En 79, les propositions le charbon un outil pour la Loire, puis celle d'un centre national de l'arme et de chasse et de tir. Alors, la rupture du programme commun arrive en 77. Elle ne va pas modifier fondamentalement cette démarche de proposition de la fédération communiste, mais en même temps, elle va l'inscrire dans un cadre complètement qui devient assez différent. D'une part, le sentiment de rejet de la politique gouvernementale giscardienne devient plus fort. Les militants communistes estiment qu'ils ont besoin de nouveau ne pas être isolés du fait de la désunion du programme commun. Et donc, il y a un besoin de protéger la municipalité de Saint-Étienne. Et donc, en septembre 78, la Fédération communiste lance l'idée de la thématique du département sinistré et de l'organisation d'un département mort ou d'action très large, unitaire. C'est là qu'il y a la fameuse affiche de « La Loire veut vivre » qui était évoquée ce matin. Et donc, il y a les 25 organisations vont annoncer une journée d'action le 15 décembre, la Loire veut vivre et c'est possible, puis dans la foulée, il y aura le 20 février les 50 000 personnes dans les rues de Saint-Étienne sur les mêmes thématiques. Alors, il faut noter qu'après 79, du fait, ça rejoint le débat sur le lien politique, c'est-à-dire politique, lutte, etc., il n'y aura plus de rassemblement unitaire de cette taille, de cette ampleur à Saint-Étienne. Il n'y en aura plus qu'un d'ampleur importante, c'est le 18 octobre 80, pour la défense de Manu France, mais il est lancé à l'initiative essentiellement de la CGT et relayé par le PC, avec où on peut dire qu'il y a, on est dans une situation où il y a marginalisation, de fait, des autres organisations syndicales et politiques, ce qui laissera des traces, évidemment, dans les relations, y compris locales. Voilà. Je n'ai pas le temps d'aborder les évolutions. Je n'ai même pas de temps du tout. Hein. Donc, on laissera pour une contribution écrite la dégradation après 1960, après 1979, où l'aggravation de la crise, les conflits Manu France et sidérurgie vont petit à petit voir la situation politique à Saint-Étienne se revenir à un niveau classique. Si en 81, le PC réussit à faire élire deux députés, hein, à partir en 83 puis en 86, progressivement, ce qu'on pourrait appeler une certaine exception stéphanoise va se normaliser et la Loire va, dans la Loire, disons que le rapport de force communiste et autres forces de gauche va s'aligner sur le plan national. Merci.
Bien, pour cette intervention de Daniel Durand, qui appelle beaucoup, beaucoup de commentaires, je pense qu'on y reviendra en détail le 20 mars de 12h à 13h, puisque nous poursuivrons la diffusion des interventions de cette journée d'études du 29 novembre. Je voudrais revenir, puisqu'il nous reste peu de temps maintenant, sur l'actualité sociale et locale, en parlant de ce qui se passe au lycée Jean Monnet, de cette grève donc qui touche apparemment de façon totale le lycée, avec une manifestation qui est prévue pour ce soir à 18h devant le rectorat. Juste deux remarques. Monsieur Payon, ministre de l'Éducation nationale, est aussi un biographe de Jean Jaurès. Donc, est-ce que Jean Jaurès aurait admis que l'on sacrifie l'enseignement dans un lycée qui touche particulièrement les quartiers populaires? Jaurès, qui parlait l'occitan et qui parlait l'allemand, aurait-il admis que l'on touche par ces mesures budgétaires stupides les options de langue qui, aujourd'hui, où l'on parle de l'Europe, sont de plus en plus nécessaires? Alors, monsieur Payon a reculé devant la mobilisation des professeurs de classe prépa. C'était peut-être à ce moment-là qu'il aurait dû tenir bon. Et on espère que la mobilisation de nos collègues du lycée Jean Monnet permettra de faire un retour sur ces mesures budgétaires totalement injustifiées.
Oui, ben voilà, donc c'est la fin de l'émission. Bon, ben, il y a une rediffusion ce soir à 19h, une rediffusion demain à 8h. Sinon, vous pouvez retrouver le Grémos sur son site web www.grémos.laude.net. Et puis donc, on se retrouve le 20 mars sur Radio Dio, donc même horaire, 12h-13h. Et voilà, ben, pour terminer, voilà, pour vous dire au revoir, ben, on va écouter une petite chanson un petit peu plus actuelle d'un autre monde ouvrier de l'agglomération lilloise. Donc voilà, c'est les Lillois de MAP, des enfants de l'immigration, comme on en a aussi à Saint-Étienne. Voilà.
Entre le textile, le charbon, les murs de briques et les mines, les cités minières, le ciel gris, les usines, les courées, les pavés, les terrils, les crachins, le chicon, la grisaille, le brouillard et la jeanlin. J'y suis né, j'y errai, j'en ai fait tous les recoins, des plages de Dunkerque jusqu'au bistrot de Tourcoing. L'enfer du Nord, ses routes, ses trottoirs de pavés, sur mon mountain bike, j'ai roulé, roulé, à gambader des gants bergers, ruminés, rêvassés. Les semelles de mes Nike, je les ai usées, usées. Quand la pluie froide vient te glacer le front, te geler les larmes et te tremper le caleçon, c'est le stress, l'angoisse au rythme des saisons. 65 jours de soleil et 300 jours de dépression. À part ça, tout va bien. Chez moi, dans le Nord, c'était juste 16 mesures pour te planter le décor.
Je suis un îlot, un vrai de vrai, mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, un vrai de vrai de schlor. Je suis un îlot, un vrai de vrai, mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin.
De foot supporté par les skins, des élus avec des promesses à 2 centimes, une police nationale qui nous prenne pour des cobayes, police municipale qui se prennent pour des cow-boys, contrôle abusif, expulsion des sans-papiers, HLM insalubre où règne la précarité, l'île, le fief, le pays des socialos, la gauche caviar, discriminante et démagos, dans nos murs comme l'amiante, invisible et dangereuse, franc-maçonne vicieuse, paternaliste et mafieuse, ça se la raconte intègre, authentique et populaire, et à chaque mandat, ils nous la font à l'envers. Je sais pas si les Lillois ont de la merde dans les yeux, vu le ramassis de merde qui nous fout dans les urnes. Il serait temps de mettre un coup de pompe dans cette fourmilière du poison, quelques pièges, quelques souricières.
Je suis un îlot, un vrai de vrai, mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, un vrai de vrai de schlor. Je suis un îlot, un vrai de vrai, mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo. Fight the fight the schnorr.
Live by night. C'est pathétique à voir. À la sortie des pubs, ça dégueule sur les trottoirs. Toxico, pique du zen dans les halls de gare. Et ça refoule les bronzés à l'entrée des bars. Je veux pas te faire l'apologie. Mon code postal, le fier cul ou le chauvin à deux balles. Dans ce pays, on me rappelle que je suis pas chez moi ici. J'ai mes repères, ma famille, c'est déjà ça. Alors je fais avec ce que j'ai, même si ça me fait chier. Loin de me complaire ou d'accepter la fatalité, j'ai choisi d'ouvrir ma gueule, militer en chroniquant. Peut-être que je brasse du vent, mais ça me fait passer le temps. J'en place une pour les bras d'eux et les petits pouchins, une pour HK. Mon grand rogin, très très loin. Des décors paradisiaques, mais finalement, qu'est-ce qu'on est bien à ce barrage.
J'ai un îlot, un vrai de vrai, mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, un vrai de vrai de schlor. Je suis un îlot, un vrai de vrai, mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, un vrai de vrai de schlor. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo. Et alors,
Schnorr.